Start spreading the news. I'm leaving today. I've bought a be a part of it. New York, New York.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Une fois n'est pas coutume, d'habitude c'est Radio Libre en Périgord qui fait parler les gens. Aujourd'hui, nous allons faire parler quelqu'un de Radio Libre en Périgord. Aïda, qui est la cheville ouvrière de cette radio, la chargée de la programmation, rédactrice en chef, elle cumule toutes sortes de casquettes, et elle revient d'un voyage à New York, qui était son premier contact avec les États-Unis. Elle va nous donner quelques aperçus de cette visite mémorable. Aïda, bonjour. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs dans quelles circonstances tu es partie à New York ?
Bonjour Jean-François. C'est vrai, je suis très très surprise que tu m'interroges sur ce voyage, voyage touristique, on va dire, parce que c'était... je ne suis pas du tout spécialiste des États-Unis et loin de New York. C'était mon premier voyage dans ce pays, comme tu viens de dire. Et ce voyage, nous avons préparé depuis presque 2 ans. C'était l'idée de club des SPTT basket où mes enfants, mes 2 garçons adolescents, jouent depuis nombreuses années. Donc, 2 responsables de ce club, Denis et Stéphanie, ils ont eu cette idée, organiser le voyage pour nos adolescents et bien sûr qu'ils soient accompagnés par les parents. Cette idée, je trouvais géniale. Voilà, on a bien adhéré à ce projet et on s'inscrit comme les participants il y a environ 1 an et demi. Pour dire la vérité, je n'ai pas du tout préparé ce voyage. J'avais confiance aux organisateurs et à l'agence de voyage qui nous a préparé, concocté tous les côtés pratiques, donc hébergement, le transport sur place. Le programme était plutôt préparé par nos organisateurs de notre club. Donc je me suis un petit peu laissée aller sans... trop préoccupé de s'informer de pays et de cette ville. C'est vrai, 2-3 jours avant le voyage, je me suis dit quand même, peut-être il faudrait que je prenne quelques informations. Et là, Jean-François, c'est toi qui m'as amené le guide routard, qui m'a servi beaucoup pendant le voyage et qui m'a apporté pas mal des informations complémentaires. Donc, voilà. Je vous jure, je ne suis pas spécialiste de pays, je peux juste donner ma impression personnelle comme d'une touriste voilà, qui a passé une semaine dans ce pays.
Mais Aïda, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu connais sans doute de nom, au moins Roland Barthes, qui était un grand philosophe, écrivain des années 60, et... lui, il est parti du principe que les premières impressions sont toujours les plus fortes. La première fois, il est allé au Japon, il est revenu, il a écrit un livre sur le Japon. Et quand on lit ce livre, on est stupéfait de voir que tout ce qu'il a observé lors de ce premier contact, c'est plein de vérités et c'est exactement ce qu'il fallait voir. Donc moi, je crois beaucoup à la force des premières impressions. Alors, quelles ont été tes premières impressions quand tu es descendu de l'avion ?
Les premières impressions, c'était vraiment le contact à l'aéroport, ce contrôle de passeport, vraiment les visages fermés et très sérieux des officiers qui nous regardaient avec beaucoup, beaucoup de méfiance, malgré qu'on ne venait en groupe. Comme touristes et avec nos enfants. Donc on n'était pas du tout les immigrés potentiels. Mais tout est fait dans cette atmosphère assez méfiante et très, très stricte. En plus, mesures de sécurité sont draconiennes. Partout, on nous fouille, on nous regarde. Même quand on allait dans n'importe quel musée, on passait les contrôles comme on passerait à l'aéroport en prenant l'avion. Donc ça, cette première impression déjà nous cadre un petit peu, qu'on est là comme un touriste, comme un visiteur, mais...
A priori suspect.
Voilà, donc, en passant tout ça, ensuite...
Donc, la première impression, tu arrives, tu as l'impression de rentrer dans un état policier.
Non, je prends conscience que peut-être notre séjour prolongé ne serait pas désiré, voilà, tout simplement. Malgré que moi, j'ai entendu parler, j'ai pu après constater sur place que c'est un pays qui était construit et actuellement, dans ce pays, vivent tous, ils sont d'origine, les immigrés, les étrangers. Et ça, on sent partout. Une fois ce contrôle franchi, on se sent très très bien. Moi personnellement, jamais je me suis sentie dans aucun pays tellement bien. Personne ne fait attention à mon accent, personne ne fait attention à ma couleur de peau, à ma façon de parler, malgré que mon anglais n'est pas parfait. Où je suis allée, partout, l'accueil était mais vraiment incroyable. Même les gens dans la rue, dès qu'ils voyaient qu'on cherchait quelque chose, qu'on ne comprenait pas si on est dans bonne station métro, si on a pris bonne direction de métro, les gens venaient eux-mêmes nous demander est-ce qu'on a besoin d'aide. Ça m'a surpris aussi. Première impression, comment, pourquoi ils se proposent de m'aider on était un petit peu méfiants. Mais on a vu qu'ils n'avaient aucune idée derrière. Chaque fois, cette proposition de nous aider était vraiment franche et amicale et sincère. Et toujours, les gens nous aidaient. Une fois, on s'est trompé dans... On n'a pas se trompé, on ne savait pas trop dans quelle station il faut descendre, quand on a pris le bus. Tous les bus essayaient de nous trouver une solution. Tous les gens, un qui ne savait pas, l'autre demandait à deuxième, troisième à troisième. Et ils étaient tous vraiment là pour nous aider et que notre séjour dans cette ville de New York se passe au mieux.
Donc, une fois passé la barrière de l'entrée, tu as eu l'impression d'être vraiment arrivé au pays de la liberté et tu as rencontré des gens gentils. Alors, moi, j'ouvre une petite parenthèse pour dire quand même que ça ressort vraiment à la réputation de New York, où les gens ont la réputation d'être gentils, serviables, comme ça, surtout dans Manhattan, puisqu'ils voient tellement d'étrangers que ça leur est devenu tout naturel. Mais est-ce que tu as reçu le choc des gratte-ciels, le choc de l'énormité, le choc de la démesure de cette ville ?
Une fois qu'on est arrivé, on a pris le bus pour arriver à notre hôtel. Pendant ce trajet, c'est vrai, on a aperçu toutes ces images qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les journaux de ville de New York avec les gratte-ciel, parce que c'était au début de soirée, donc les lumières commençaient à être là, donc voilà, c'était vraiment une image de cinéma, comme disait Jean-François, quelque chose que finalement qu'on a vu quelque part, qu'on voit maintenant réellement.
Tu entendais les sirènes des voitures de police.
Sirènes, le bruit, il est permanent et surtout très, très visible la nuit. Parce qu'on était hébergés dans Chinatown, dans une partie...
Au sud de la péninsule de Manhattan.
Voilà. Et donc, cet endroit, comme j'ai dit à plusieurs personnes, en même temps, ça nous a permis de couvrir deux pays, les États-Unis et la Chine, parce que c'est vraiment le quartier chinois avec leur commerce, avec leur présence et leur culture qui est vraiment là. On a pu manger dans leur restaurant, assister même dans leur fête, dans le même restaurant. On n'était que nous avec nos enfants. Les Chinois ont fêté leur
fête. Tu aurais pu, juste à côté, hein, tu avais aussi Little Italy, où tu aurais pu aller rencontrer des mafiosi, des gangsters.
Dans ce quartier-là, on a mangé très, très beau, bon gâteau dans une pâtisserie Victoria. Je ne me souviens plus le titre exact. Voilà, ça, c'est une autre image. Et c'est vrai, chaque quartier a ses particularités et son charme. Je ne sais pas, voilà. Donc, je reste toujours sur cette impression de touriste émerveillé.
Je reviens quand même au gratte-ciel. Est-ce qu'ils t'ont impressionné quand même? Est-ce que c'est... Dans la partie, bon, évidemment, tu n'étais pas dans la partie, si tu étais hébergé à Chinatown, ce n'est pas vraiment la partie où il y a les gratte-ciels les plus impressionnants, mais quand même, est-ce que tu as eu un aperçu de l'Empire State Building et puis de ce qui a remplacé les deux tours?
Oui, le premier jour, on a marché à pied depuis notre hôtel jusqu'à un placement où on a pu prendre bateau pour visiter la Statue des Libertés. Donc pendant ce marche à pied, on a visité quartier de Wall Street et tous ces gratte-ciels. Dès qu'on levait la tête, ça tournait la tête. On ne savait plus revenir. Et certains endroits, en marchant dans la rue, ce grand immeuble cachait le soleil. On se retrouvait comme dans un forêt avec les constructions. Je dis forêt, mais c'est pas forêt, c'est forêt des gratte-ciels. Le soleil a eu du mal à traverser la grandeur de ce bâtiment. C'est vrai, c'est quelque chose qui impressionne. Il faut être sur place. C'est impossible d'écrire un mot ce sentiment, ce vécu de cette grandeur, de cette puissance économique, toutes ces idées qui se mélangent en même temps. Voilà. Et en même temps, on est très surpris en visitant le musée avec les œuvres vraiment de très, très grande qualité, ça, avec la richesse.
C'est quelque chose, ça qui t'a frappé, tu m'avais dit, savoir qu'il y a une accumulation de musées, de galeries, où il y a des choses magnifiques qui sont concentrées là et qui, je veux dire, font pendant au gigantisme et puis à la puissance américaine, quoi, la possibilité de se payer tout ce qu'on veut.
Exact. On dirait que tout est possible là-bas. Tout le monde parle de rêve américain et qu'on dirait que ce rêve, on peut se réaliser. Par contre, on était très, très surpris que les prix sont très élevés. Moindre chose coûte assez cher, même, on ne dit pas que c'est que pour touristes, je pense pour tout le monde. Donc, et quelqu'un dans la rue qu'on a rencontré, qu'on a discuté un petit peu, nous a dit, mais il n'y a rien gratuit aux États-Unis. Tout se paye.
Tout, si tu n'as pas le billet vert... Dans ta poche, ce fameux billet vert, eh bien, tu es fichu, là. C'est pas... Comme tu le dis, rien n'est gratuit. Et malgré ça, tu as eu quand même cette impression de liberté, je crois, et dans une ville dont tout le monde s'accorde à dire que, finalement, c'est la plus européenne des villes des États-Unis, avec peut-être des villes comme Boston dans le nord-est. Qu'est-ce que vous avez vu encore qui vous a frappé? Est-ce que vous êtes allé, vous avez parcouru Broadway, vous avez parcouru la 5e avenue, vous êtes allé jusqu'à Central Park?
Oui, on a visité tout ce qui nous paraissait intéressant. Je pense que les principaux musées, principaux sites, on a pu voir. On a marché beaucoup, on a eu beaucoup mal aux pieds. On était très fatigués le soir, mais voilà, comme les vrais touristes. Mais moi, personnellement, je peux parler que de moi. L'endroit qui m'a touchée plus et que je voulais voir depuis le début, c'était un endroit essentiel pour moi à visiter et à découvrir, c'était un musée d'immigration qui se trouve juste à côté de Statue des Libertés, parce que ce lieu... C'est vrai, il fallait absolument avoir audio guide pour comprendre les significations de salles, de certains endroits, parce qu'au début, avec mes enfants, on n'a pas pu, on n'a pas su, on n'a pas voulu prendre ce guide, on a parcouru rapidement comme ça, et ça ne nous parlait pas du tout ce lieu, ces salles, ces bancs. Et une fois qu'on a pu prendre le guide et suivre ce visite guidée, à ce moment-là, vraiment, on découvre la signification, on découvre vraiment richesse et importance de cet endroit. De plus que dans ma famille, mon grand-père paternel a passé par ce lieu. Parce qu'après, moi, je savais que je suis lituanienne et mon grand-père était pris par l'armée allemande, l'armée nazie, pour les travaux dans les usines en Allemagne pendant la guerre. Donc, après, à la fin de la guerre, il n'a pas pu revenir dans son pays natal parce qu'il était considéré comme ennemi, parce qu'il travaillait pour... Allemagne nazie. Donc l'Europe ne voulait pas ces gens-là. Donc il était parmi tous ces émigrés qui est parti aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas un autre choix. Et selon les documentations de ce musée, jusqu'à 1954, ce lieu servait vraiment d'accueil de tous les immigrés qui arrivaient aux États-Unis. Donc personnellement, ça m'a déjà parlé beaucoup, ému. Certaines salles étaient tellement difficiles à visiter, surtout cet endroit où on parle de visite médicale obligatoire. Je ne me sentais même pas très bien dans cet endroit et je suis partie. Ensuite, c'est vrai, il y a un travail énorme de mémoire, de recherche pour valoriser ce fait de l'histoire. Il y a même une salle où on peut réserver son ordinateur pour quelques dollars et rechercher un descendant de sa famille. C'est vrai, j'ai su tout ça... Je ne me suis pas préparée pour ce voyage, je ne me suis pas documentée, donc j'ai appris vraiment dernière minute de notre visite, donc c'est un regret qui reste, que je n'ai pas pu...
Tu es allée encore même plus loin, je crois que tu as consommé le repas des immigrants.
Oui, il y a une possibilité, si on veut, il y a une petite cafétéria dans ce musée, et si on veut, on peut prendre un menu d'un immigrant, avec un menu qui, dans la même salle que le repas était servi, donc avec les grandes tables, comme une auberge, avec les bancs, avec les sièges, avec même décor, si on a bien compris, ça n'a pas changé beaucoup, donc on peut vraiment s'insérer dans cette ambiance, malgré le menu qui est beaucoup plus moderne.
Alors, qu'est-ce qui t'a frappé encore dans la vie quotidienne en New York ? Est-ce que New York t'a donné l'impression d'une ville qui marche bien, où tout est propre, où tout est réglé au cordeau, comme on pense toujours que c'est le cas dans la vie aux États-Unis?
Ça dépend du quartier dans lequel on se trouve. Comme on était logé dans un quartier chinois, donc on a vu plutôt cette côté caché de propriétés dans les autres quartiers, hein, comme Wall Street, c'est super propre, c'est super...
La propriété n'est pas la même à Chinatown et dans la 5e avenue. Hein.
Exactement, parce que là, on s'est levé le matin de bonne heure, ou on rentrait soir tard, et on voyait vraiment, surtout le soir, ça nous impressionnait, les montagnes de poubelles de journée. Donc ça signifie que tout ça, c'était... tous ces déchets étaient produits dans la journée seulement.
Ah, oui, et ça, c'était les restaurants chinois, c'est pas
Et il n'y a pas de container, tout est mis sur le trottoir. Donc vous imaginez, il y a plein de rats. Donc ça nous a assez surpris, parce que quand même, à New York, en plein Manhattan, on peut voir ces choses-là.
Bien sûr, mais là, tu es dans la partie la plus exotique et la plus ancienne de Manhattan. Si tu avais été te promener devant la Trump Tower, je pense que tu n'aurais pas trouvé des tas d'ordures avec des rats qui couraient dedans.
Non, c'est vrai, dans ces endroits-là, c'était une autre vision. C'était plutôt tous ces panneaux publicitaires qui carrément crèvent les yeux. C'est partout, comme Times Square le soir. C'est vraiment, tout se passe à côté, à peine dans quelques kilomètres, quelques quartiers plus loin. Et tout se mélange, tout est possible finalement. Et tout ce melting pot qui m'a surpris, parce que tout le monde, de différentes nationalités, sont là et tout le monde se sent bien, on dirait. Ils se sentent chez eux. Je vais raconter même une anecdote. J'ai rencontré mon frère qui est installé aux États-Unis déjà depuis quelques années, que je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. Donc, c'était un moment aussi important de retrouvailles. Et en marchant dans la rue, avant d'aller à une pizzeria pas loin de Times Square, il m'a dit... Ce serait comble si on rencontre encore un Lituanien. Et pendant le repas, on a commencé à parler entre nous, dans notre langue. Et dans la table à côté, une fille qui se retourne et dit « Vous êtes de quelle ville en Lituanie ?» Un Lituanien. Donc voilà, même dans les villes éloignées et endroits, tout le monde... trouver sa place.
C'est vrai que le caractère international de New York, c'est aussi une des caractéristiques de cette ville et qui la rendent particulièrement attachante. Est-ce que tu as pu aller dans d'autres quartiers que Manhattan ou bien est-ce que tu t'es limité à la presqu'île de Manhattan?
Non, on allait voir les sites touristiques, donc les musées, donc musée de sciences naturelles, qui nous a surpris beaucoup aussi avec tous ces, surtout les salles de dinosaures étaient importantes. Jean-François, tu me montres sur la carte.
Tu peux aller là, sur le site des deux tours.
Oui, et c'était vraiment un moment très émouvant. Parce qu'il y a un mémorial à la place de deux tours qui était détruit et à côté un musée qui reflète toute cette histoire. Donc on a visité le 2 et surtout au moment où on a resté là, regardé cet emplacement d'ancien tour, ce mémorial, on a pu voir les familles américaines qui viennent là pour se recueillir, pour peut-être mémorer leurs proches. Et un couple de personnes de certain âge étaient là, juste à côté. Ils ont pris une photo d'un nom. Et quelqu'un de notre groupe, involontairement, a mis la main en regardant sur ce nom. Ils ont demandé poliment, est-ce qu'on peut enlever les semaines pour cette photo parce que pour eux c'est important et tout ça. Cette émotion, cette tragédie qui était vécue par les habitants, elle est toujours là, même plusieurs années après, et surtout très très visible et très. On sent ce sentiment en visitant surtout le musée. On voit les personnes très émues. Certains, ils peuvent même pas continuer la visite parce que ça parle beaucoup et c'est pour ça après on comprend toutes ces mesures de sécurité et cette ambiance. Mais malgré tout ça, les vrais New-Yorkais, ils vivent. Pendant notre séjour, c'était cette affaire de paquets suspects, mais aucune panique dans la rue, aucun ressentiment pendant notre séjour. On ne peut pas dire qu'ils sont habitués, mais ils arrivent à gérer tout ça.
La sensation de la présence, d'une présence policière très lourde, très importante.
Ça aussi, on a eu un incident dans un café pendant notre repas, un tuyau qui s'est percé, un liquide suspect qui commençait à couler de plafond. 10 minutes après, les pompiers sont arrivés de tous les coins, mais comme dans un film. Hein, voilà. Donc, on a vu que voilà, les mesures de sécurité sont là et réaction aussi.
Les voitures jaunes.
Les gros camions, vous savez, avec toutes ces couleurs, avec toutes ces sirènes. Et surtout, on a vu que ça arrivait de tous les, vraiment de tous les rues possibles dans le cercle. Donc, sécurité au maximum. Ça.
Mais Aïda, parmi toutes les choses que tu as visitées à New York, et à Manhattan, il y en a une qui t'a particulièrement marqué et dont tu m'as parlé. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux nous parler de ta visite au siège de l'ONU au bord de l'East River ?
Oui, oui. C'était surtout une occasion unique, je pense, rencontrer la personne en français, qui travaille dans la radio de l'ONU. C'était possible parce que notre ami Robert Kaminker, qui est aussi trésorier des RLP et qu'on sait ancien fonctionnaire de l'ONU, et ça fait qu'il s'est retrouvé en même temps à New York pendant la même date qu'on était pour notre visite.
Il était là-bas, vous étiez donné rendez-vous à New York en toute simplicité.
Exactement. Et tout simplement, on était vraiment, on va dire, on ne se gênait pas. On allait visiter la radio de l'ONU. Et ça, c'est une visite qui m'a marqué énormément. Vous savez, c'est une institution importante avec toutes ces réunions, sécurité, etc. Et ils ont leur rédaction avec les radios en cinq langues, avec les émissions filmées, et surtout sessions générales qui sont filmées en permanence, après montées et proposées pour différentes rédactions. Et je pense que suite à cette visite, on va mettre en place dans la programmation des RLP le journal préparé par la rédaction française, journal de l'ONU. Eux, ils étaient même très, très ouverts et surpris que notre toute petite radio en Dordogne est intéressée par ce type d'information, parce que si on a pu bien comprendre, cette info est très très mal reprise par les autres médias. Voilà, souvent les médias essayent d'envoyer leurs journalistes, leur rédaction sur place, et ça bien sûr ça pose problème d'accès, de sécurité, etc. Que cette rédaction, elle travaille dans ces lieux-là, ils ont vraiment accès beaucoup plus directement et beaucoup plus étroite avec tous les acteurs et les invités.
Ces informations de l'ONU, ce sont des informations qui concernent uniquement les actions de l'ONU ou bien tout ça concerne aussi d'autres événements qui peuvent se produire dans tous les pays où par définition l'ONU est présente d'une manière ou d'une autre puisque pratiquement tous les pays font partie de l'ONU.
C'est tout qu'est-ce que se passe au siège de l'ONU et tout qui concerne aussi toutes les actions dans le monde entier. Voilà, donc ça peut vraiment être une action ponctuelle comme vraiment une commission qui a travaillé sur une question, etc. Récemment, par exemple, ça m'a surpris qu'ils ont parlé aussi de marathon de New York en amenant tout ça vers notre réflexion concernant le climat, renouvellement des énergies.
Merci beaucoup, Aïda, pour ce témoignage sur l'ONU et merci à Robert Kaminker qui a permis ce contact qui risque d'avoir des suites tout à fait intéressantes. Tu as dû voir à New York plus de drapeaux américains que tu n'en avais vu dans tout le reste de ta vie. Est-ce que je me trompe ?
C'est juste, oui. Ils sont partout. Ils sont partout et on ne se trompe pas dans quel pays nous sommes. Pas seulement drapeau, mais aussi visuel sur les vêtements, sur les souvenirs, partout.
Est-ce que c'est pas un petit peu oppressant, ça, cette espèce de nationalisme qui se manifeste comme ça, ouvertement, sans arrêt, alors qu'il est devenu tellement discret dans un pays comme le nôtre et même dans beaucoup de pays européens ?
Non, ça ne m'a pas surpris, parce que je pense qu'on a vu plusieurs films.
Ni surpris, ni choqué, parce qu'encore, tu avais l'impression d'être au cinéma.
Exactement. Le cinéma, les images nous ont formés. Donc, j'étais préparée à cette image-là. Ça ne m'a pas du tout choquée.
Ça t'a donné envie de revenir aux États-Unis, de revenir d'abord à New York et de la voir, de la visiter d'une manière plus complète, mais aussi d'aller dans des endroits aussi différents que les Appalaches ou que la Californie ou encore tu aurais bien des surprises certainement. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray. C'était Tranche de Vie, une émission proposée par Jean-François. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And